Le thème que je voudrais vous proposer ce matin, c'est « Soyons réellement forts », parce que Dieu nous appelle à être forts. Alors on va voir aussi ce que ça comporte réellement au travers de ce que nous dit la parole de Dieu. Dans le psaume 68, au verset 29, David dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. » Alors, cette traduction pourrait un peu prêter à confusion. On pourrait penser que Dieu dit « Je te donne un ordre, sois puissant. » Et longtemps, j'ai compris ce texte comme ça. Et puis, en lisant le texte dans une autre traduction, dans la traduction du Semeur, vous allez voir, ça prend tout à fait une autre couleur. Or, ton Dieu a décidé de t'accorder de la force pour affermir ce que tu as fait pour nous. Et je pense que c'est pas tout à fait la même chose. En fait, Dieu ordonne que nous soyons puissants, mais il nous dit pas « sois puissant ». C'est lui qui nous accorde de la force pour affermir ce qu'il a fait pour nous. Et c'est tout à fait différent. Alors, Dieu désire que nous soyons forts, et s'il veut que nous soyons forts, c'est pas pour que nous puissions rouler les épaules et nous prendre pour quelqu'un d'important. Non, c'est parce que si Dieu veut que nous soyons forts, c'est parce qu'il sait que nous avons un adversaire qui, lui, est beaucoup plus puissant que nous. Et si on l'affronte avec nos propres forces, eh ben on a perdu d'avance. Et c'est pour ça que Dieu nous dit « Soyez forts, mais cette force, c'est moi qui vais vous la donner. » Alors, dans toute la Bible, on peut trouver des récits de personnages qui ont accompli des actions extraordinaire, je dirais même surhumaine. Et alors, ce qui est surprenant, ce qui est paradoxal, c'est que la plupart du temps, Dieu a utilisé pour ça des personnes tout à fait ordinaires. Il n'a pas choisi ceux que nous aurions peut-être nous choisi. Alors, quelques exemples, entre autres, Moïse. Moïse, c'était quelqu'un de très âgé déjà, quand Dieu lui a apparu dans le buisson ardent, figurez-vous que ce n'était pas un jeune homme, il avait déjà 80 ans. Il avait déjà passé 40 ans dans le désert à s'occuper des brebis de son beau-père. Et c'est là que Dieu l'a choisi. Et en plus, quand il s'est adressé à Moïse, Moïse, il s'est trouvé tout à fait pas à la hauteur de la tâche qui lui était confiée, puisque en plus, c'était quelqu'un de complexé, Moïse, parce que il avait des problèmes d'élocution. Alors, est-ce que nous aurions choisi quelqu'un comme ça? Une personne déjà âgée, avec des problèmes d'élocution, pour faire une tâche aussi énorme que celle de faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte pour l'amener jusque dans la terre promise. Et c'était pas une mission d'un week-end qu'il lui proposait. C'était une mission qui a duré 40 ans. Et Dieu s'est adressé à un Moïse. Et ce Moïse, c'était un personnage extraordinaire, mais parce qu'il s'est laissé transformer par Dieu. Et c'est Dieu qui lui a donné la capacité de faire ce qu'il a fait. Un autre exemple, un peu plus tard, c'est à l'époque des juges, il a choisi un Gédéon qui se considérait comme le plus petit d'une famille modeste et d'une tribu modeste. Et il lui a permis de vaincre les Madianites avec seulement une armée de 300 hommes, armée de puissants chars d'assaut, non, de cruches et de torches. Alors, pour affronter une puissante armée. Alors là encore, Dieu nous, nous désarçonne quand on voit ses choix. Mais c'est lui qui a combattu pour Israël à ce moment-là. Mais il n'a pas cherché quelqu'un qui était en vue, qui avait un prestige fantastique. Non, il a choisi un Gédéon qui, lui, se considérait comme incapable d'accomplir ça. Un peu plus tard, quand Israël a réclamé un roi, donc il avait d'abord choisi Saül, qui lui avait une belle apparence, une prestance formidable, mais ça n'a pas été un roi extraordinaire, Saül. Et puis ensuite, il a choisi un David. Alors là, encore, quand il a choisi David et qu'il a envoyé son prophète, son serviteur Samuel, pour oindre un des fils de Jessé, quand il est arrivé, il avait fait réunir la famille, et puis quand il a fait défiler, quand Jessé a fait défiler tous ses fils devant Samuel, eh bien Dieu lui a montré que c'était aucun de ses fils. Quand Samuel a vu Eliab, un grand gaillard avec une prestance fantastique, il s'est dit, ah ben voilà, celui que l'Éternel a choisi. Eh ben non, c'était pas celui-là. Pourtant, il avait une belle apparence, une belle prestance, mais c'est pas ça que Dieu avait choisi, parce qu'il choisit en fonction du cœur et pas en fonction de ce que nous sommes capables d'accomplir par nos forces. Et puis, il a choisi quelqu'un qui n'était même pas présent, qu'on n'avait même pas jugé bon de faire venir. C'était le petit dernier qui était un peu méprisé et tenu à l'écart, puisqu'on l'avait laissé pour garder le troupeau. C'était le petit David, enfin. Ça devait déjà être un gaillard assez costaud, parce que il nous est dit un peu plus tard qu'il affrontait les lions et les ours pour défendre son troupeau, donc c'était pas un gringalet, mais c'était pas le plus considéré de la famille, et c'est celui que Dieu a choisi, celui que les hommes n'auraient pas choisi. Et puis si on va encore un peu plus tard, à l'époque où Dieu a envoyé des prophètes au moment de l'exil, il a choisi un Jérémie. Et quand il s'est adressé à Jérémie, Jérémie a dit, mais Seigneur, je ne peux pas accomplir ce que tu me demandes, je suis encore qu'un enfant. Eh bien Dieu a choisi celui qui se sentait pas capable. Alors, ça c'est dans l'Ancien Testament, si on arrive au Nouveau Testament, Dieu a choisi pour donner des disciples à son fils Jésus, des gens qui n'étaient pas l'élite de la société d'alors. On voit que ceux qu'il a choisis, peut-être à quelques exceptions près, c'était pas des notables, et c'était des gens sans instruction, comme des pêcheurs. Et un Pierre, par exemple, qui était un simple pêcheur sans instruction, il en a fait le grand apôtre Pierre. Eh bien, voilà, c'est ce que Dieu choisit. Et puis, un peu plus tard, il a aussi choisi un Paul qui lui se déclare aussi faible. Alors, Dieu choisit vraiment des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, nous dit « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » C'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. C'est le paradoxe de l'Évangile. La véritable force ne peut se manifester que dans la faiblesse. Parce que quand l'homme se croit fort, C'est un peu le commencement de la fin. Si on se croit suffisamment fort, alors on risque fort d'être déconfit. On a bien des exemples dans la parole de Dieu de personnes qui se sont mis en danger parce qu'ils se sont crus un peu trop forts. Et là, l'exemple déjà, lorsque Israël faisait la conquête du pays de Canaan, fort de l'expérience qu'ils avaient eue avec la prise de Jéricho, quand il a fallu prendre la petite bourgade de Dai, Josué n'a pas vraiment consulté le Seigneur pour savoir ce qu'il devait faire. Et ils se sont dit, c'est pas très important, on va pas prendre toute l'armée, tout le peuple, avec simplement un nombre réduit d'hommes, on va pouvoir, ça sera une formalité. Eh bien non, ils ont subi une cuisante défaite parce que déjà, il y avait eu une désobéissance et qu'il y avait un interdit, c'est vrai. Mais aussi, ils s'étaient crus trop, trop forts. Ils étaient allés avec leur propre force et ils n'avaient pas demandé au Seigneur. S'ils avaient consulté Dieu, Dieu leur aurait dit, c'est moi qui vous accorde la victoire. Mais là, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Alors oui, c'est le paradoxe de Dieu n'utilise pas ce qu'on considère, nous, comme la logique des choses. Et par exemple, un Samson qui avait fait des exploits extraordinaires, il s'appuyait un petit peu trop aussi sur son expérience et sur sa force, plutôt que sur le Seigneur. Et il s'est laissé séduire par Dalila. Et lorsque les Philistins sont venus pour le prendre, il a cru qu'il pouvait s'en sortir par ses propres forces. Et il s'est fait avoir parce que d'une part il avait désobéi, mais d'autre part il s'appuyait trop sur sa propre force. Si on en revient à notre texte du départ dans le psaume 68, c'est Dieu qui accorde la force, et ça pour affermir ce qu'il a déjà accompli pour nous. Il faut déjà prendre conscience d'une chose que Salomon déclare dans les Proverbes, c'est « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » La première chose pour être un serviteur de l'Éternel fort, c'est d'être humble. C'est de considérer que justement on est faible. Et que si on est fort, c'est parce que c'est Dieu qui nous accorde la force. Il y a un autre texte, toujours dans les Proverbes. Alors, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et puis, avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Donc, première condition pour être un disciple fort, l'humilité. On peut être disciple de Jésus parce qu'on l'a reconnu comme son Seigneur, comme son Sauveur, et pourtant être un disciple incomplet. Il y a un exemple qui nous est donné dans le livre des Actes, au chapitre 19. Pendant qu'Apollo se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. » Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie, mais il leur disait aussi de croire à celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Alors il est bien précisé dans le texte qu'il s'agissait d'un petit groupe de disciples. Donc, s'ils étaient disciples, c'est déjà quand même que le Saint-Esprit les avait visités et convaincus de péché. Mais il leur manquait une dimension, ils avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et cela, c'est pas une expérience unique. C'est quelque chose qui s'entretient. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul exhorte les Éphésiens dans sa lettre au chapitre 5 et au verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Il y a des gens qui s'appuient sur une expérience et puis qui pensent qu'ils sont arrivés, mais la vie de l'Esprit, ça s'entretient. Ça s'entretient par une intimité avec le Seigneur. Et si l'apôtre fait allusion à l'ivresse, c'est peut-être parce que parfois l'effusion du Saint-Esprit peut nous mettre dans un état qui peut prêter à confusion. Mais l'ivresse que procure le Saint-Esprit, c'est une bonne ivresse. Et pour être rempli de l'Esprit, c'est la seule façon d'être un disciple fort et bien équipé. Au jour de la Pentecôte, certains témoins ont pensé que les disciples étaient ivres aussi. Mais Pierre les a détrompés et il a fait ce fameux discours qui s'est conclu par des milliers de conversions. Oui, être rempli de l'Esprit, c'est la seule façon d'être un disciple fort et bien équipé. C'est cet équipement que le Saint-Esprit nous donne, qui est décrit par Paul dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre suivant, au chapitre 6. Alors bien sûr, c'est des textes que nous connaissons, mais qu'il est important de se remémorer et de relire et de méditer. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches du malin, du diable. Prenez le casque du salut, c'est-à-dire l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Alors, remarquez cela. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. Donc, comme l'apôtre le précise, le combat que nous avons à mener, ce n'est pas contre des êtres humains. Il est contre les puissances qui sont bien supérieures à la nôtre. Alors si nous n'avons pas pris soin d'entretenir notre équipement, le combat est perdu d'avance. Remarquez l'importance de la parole de Dieu d'une part et de la prière d'autre part. faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit, faites-le avec vigilance et constance. Oui, c'est la prière d'une part et la parole de Dieu d'autre part. Et en cela, notre Seigneur nous a montré l'exemple parce que lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert, il a su à chaque fois manier l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour se défendre contre les tentations de l'ennemi. Et puis, il nous est aussi précisé qu'il passait des nuits en prière, il se retirait à l'écart et il prenait du temps de qualité avec son Père. Et c'est pour ça qu'il pouvait résister en toutes circonstances à l'adversaire. Et c'est cette plénitude de l'Esprit qui lui donnait cette puissance. Et cette plénitude de l'Esprit, elle est indispensable pour tenir ferme dans les moments difficiles. Et Jésus avertit ses disciples qu'ils en rencontreraient des moments difficiles. Entre autres, il dit dans Matthieu, il nous dit « Voici, je vous envoie, c'est Jésus qui parle, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage ainsi qu'aux nations païennes. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. » Alors, bien sûr, vous allez me dire, ici, en France, aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés de cette manière, mais nous sommes tous amenés quand même, un jour ou l'autre, à rencontrer des contradicteurs, à rencontrer des gens qui nous affirment des choses qui sont fausses ou qui sont des incrédules, et ou alors des gens qui veulent nous prouver des choses ou nous enseigner des fausses doctrines. Je me souviens d'une expérience personnelle il y a très longtemps de ça, puisque c'était au début de notre mariage. Nous étions dans les immeubles des Champs-Montants à Audincourt. Et puis, à cette époque-là, Corinne travaillait à temps partiel comme infirmière à l'usine d'Audincourt. Et le soir, j'étais seul avec notre aîné. Nous avions juste un enfant à l'époque, Michael, et j'étais seul avec lui le soir jusqu'à ce que Corinne rentre. Et puis un soir, alors que j'étais en train de préparer mon repas, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Et c'était un colporteur, un disciple du Christ de Montfavet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette secte à l'époque, qui disait que oui, le Christ est revenu sur terre, il est à Montfavet, il fait des miracles, il fait ci, il fait ça. Et puis ce gars-là, il commence à essayer de me convaincre et de me raconter ses salades. Et puis, j'ai arrêté mon truc sur le feu, et puis j'ai dit, celui-là, il faut quand même que j'essaie de lui dire qu'il est complètement à côté de la plaque. Et puis, alors, faut dire que moi, c'est vrai que je savais que tout ce qu'il me disait, c'était, il y avait les textes bibliques qui pouvaient contredire, qui pouvaient contrecarrer tout ce qu'il me disait. Mais ces textes, bon, j'en connaissais certains, mais j'étais tout à fait incapable de les trouver comme ça tout de suite, spontanément. Eh bien, figurez-vous, et puis en plus, moi, j'ai une mémoire assez défaillante, j'ai toujours eu des problèmes de mémoire. Eh bien, figurez-vous que J'ai été surpris, agréablement surpris, mais on ne devrait pas être surpris parce que le Seigneur, il connaît tout et il nous donne tout ce qu'il faut au moment où il faut. Hein. Comme il est dit dans le texte que nous avons lu, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, les paroles vous seront données au moment même. Chaque fois que le gars me disait quelque chose, je trouvais tout de suite sans problème le texte pour le contredire. Le gars, il était complètement désarçonné et il a été complètement, il était perdu. Au lieu de continuer son colportage dans l'immeuble, quand il est sorti de chez moi, alors je sais pas, il a entendu la bonne nouvelle, mais je sais pas ce qu'il en a fait, mais en tout cas, il a compris qu'il était à côté de la plaque parce qu'il n'a pas continué son colportage. Il est sorti de chez moi, j'ai vu qu'il partait, qu'il quittait le coin. Alors j'ai dit merci Seigneur parce qu'au moins il ne va pas polluer tout le reste de l'immeuble. Mais voilà, le Seigneur, il nous donne quand il faut, si on compte sur lui. Mais il faut vraiment être armé pour ça. Il faut être en possession de cette épée de l'esprit, avoir la parole de Dieu, et puis passer du temps dans sa présence, dans la prière, dans l'intercession. Alors oui, le Saint-Esprit transforme les situations extrêmes pour nous permettre de les supporter de façon incroyable. Pensez à Paul et Silas, par exemple, lorsqu'ils étaient dans la prison de Philippe, et qui était capable de chanter les louanges de Dieu dans la situation où ils se trouvaient, après avoir été torturés comme ils avaient été torturés. C'est incompréhensible. Pensez à Étienne, supplicié, qui était en train d'être lapidé et qui dit ces choses au moment de sa lapidation. Alors que je retrouve le bon texte, voilà, dans les Actes chapitre 7, versets 54 à 56. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne, mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria : écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est seulement cette plénitude de l'Esprit, il est dit qu'il était rempli de l'Esprit, qui peut nous permettre de supporter des choses comme ça, d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur, malgré les circonstances, malgré les situations. Alors, oui, pour ça, on a vraiment besoin de d'être vraiment imprégné de la présence de Dieu et d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est seulement cette plénitude de l'Esprit qui nous permet de porter ce fruit extraordinaire qui est décrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5 et verset 22, un texte que vous connaissez bien sûr, hein. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nos efforts. Non, c'est vraiment par l'œuvre du Saint-Esprit en nous qu'on peut produire un tel fruit. On constate encore une chose dans les personnes qui sont remplies de l'Esprit. C'est que même le caractère d'une personne est transformé. Vous souvenez de l'apôtre Pierre avant la Pentecôte, qui était un être impulsif et fonceur, et on voit son attitude plus tard lorsqu'il est emprisonné, qui doit être exécuté le lendemain. Il est dans la prison et il est enchaîné à deux gardes. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre ? Il dort paisiblement. Lui, le fougueux, l'impulsif, alors qu'il sait qu'il doit être exécuté le lendemain matin, il dort paisiblement. Moi, je ne sais pas, mais si on me disait, tu vas être exécuté demain matin, je ne sais pas si j'arriverai à dormir paisiblement. C'est le Seigneur hein, qui donne cette force-là. Oui, il semble qu'on aurait du mal, mais au moment voulu, Dieu nous donne la capacité. Alors, oui, Pierre, dans ce moment-là, il est dans un état d'extrême faiblesse, mais en réalité, il est très fort. Il expérimente ce que dit le prophète Ésaïe. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. C'est ce même calme qu'expérimente Paul lorsque le bateau qui l'emmène à Rome fait naufrage près de l'île de Malte. Tout le monde est affolé. Mais Paul n'est pas affolé parce que il est calme et confiant parce que le Seigneur lui a révélé ce qui doit arriver. Parce que lui, il est vraiment rempli de l'esprit et en communion avec le Seigneur et le Seigneur le tranquillise. Alors, oui, c'est dans cette intimité avec le Seigneur c'est cette intimité qui permet une telle sérénité dans des moments comme ceux-là. La plupart des apôtres et un grand nombre de disciples du premier siècle ont vécu le martyre, mais ils ont pu supporter les choses parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Oui, c'est dans cette intimité qu'on peut trouver la sérénité et ne pas flancher dans des moments où n'importe qui pourrait sombrer. C'est une chose impossible de tenir le choc sans le soutien du Saint-Esprit. Alors, pour l'instant, en France, nous ne sommes pas soumis à ces situations extrêmes. Mais le serons-nous un jour ? Dieu seul le sait. Hein ? Quoi qu'il en soit, pour être ces chrétiens réellement forts, pour expérimenter ces fleuves d'eau vive dont Jésus a parlé à la Samaritaine, il est primordial de cultiver et d'entretenir cette intimité avec le Seigneur, de libérer du temps pour lui. Et si je vous exhorte ce matin, je dois aussi m'exhorter moi-même avant toute chose. Je dois m'interpeller parce que je suis bien obligé de reconnaître que je ne suis pas toujours au top. Je ne suis pas toujours... Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où on sent vraiment la présence de l'Esprit, hein, comme nous avait témoigné Quentin la semaine dernière, qu'il y a des moments où la présence du Seigneur est tangible, où on sent vraiment, où on est bien dans sa présence. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Je dois le confesser. J'ai besoin de mettre à part plus de temps avec le Seigneur. J'ai besoin de trouver plus de temps. Alors c'est vrai, bien souvent on est débordé, on a énormément d'activités et des choses qui sont pas toujours essentielles. On sait pas toujours dégager du temps pour le Seigneur, mais on sait en dégager pour des choses qui sont pas primordiales dans nos vies. Et si on est honnête, il y a peut-être des choses qui prennent le temps qui seraient destinées à Dieu. Alors, je vous laisse simplement avec cette réflexion et en conclusion, je voudrais vous laisser ce dernier verset d'un psaume d'Asaph. C'est « Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sur-refuge. » Et je raconterai ses œuvres. Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu, passer du temps dans sa présence. J'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sur-refuge, et je raconterai ses œuvres. On est rendu capable de raconter ses œuvres si on passe beaucoup de temps dans sa présence, parce qu'on est imprégné de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il peut nous donner aussi. Alors, oui, soyons cultivons et entretenons une intimité avec le Seigneur, soyons réellement forts.